Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 27 octobre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse, au cours de 7 heures, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France, Zoom sur le musicien franco-australien Endorphin. Il est 13 heures, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 27 octobre, les Melbourniens sont autorisés une visite à domicile par jour avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus. La juge américaine Amy Coney Barrett, confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Aux Seychelles, l'élection présidentielle de dimanche avec le candidat de l'opposition qui gagne, une première depuis 1977. Et à partir de minuit ce mardi soir, les visites à domicile à Melbourne seront limitées à une par jour alors que la ville sort de son verrouillage lié au Covid-19. Le chef du gouvernement, Daniel Andrews, affirme que des directives strictes doivent être en place en ce qui concerne les visites car c'est souvent à la maison que les gens baissent la garde.
Two adults will be able to visit another home accompanied by dependents that cannot be left unsupervised. Visits must occur, at least for the next couple of weeks, within the 25-kilometre limit, and only one private gathering, only one such visiting event, can occur per day. Meaning, if you have somebody over to your house at, say, lunchtime, you can't visit another house that night.
La règle des visites à domicile restera en vigueur au-delà du 8 novembre, date à laquelle le gouvernement de l'État devrait dévoiler des plans pour un Noël, un été et l'année 2021. Et bien pour suivre cette nouvelle, pour rappel, le chef du gouvernement, Daniel Andrews, a annoncé hier des assouplissements des restrictions liées au coronavirus. À partir de ce mardi 23h59, tous les commerces, pubs et restaurants seront autorisés à rouvrir avec des limites d'accueillir des clients, soit 50 personnes à l'extérieur et 20 personnes à l'intérieur. Les salons de beauté et les services de soins personnels rouvrent, mais il faudra continuer de porter le masque dans ces lieux. La limite de voyager dans un rayon de 25 km de votre maison reste en vigueur jusqu'au 8 novembre prochain. Et le port du masque, je rappelle, reste obligatoire dans les lieux publics. La chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré qu'elle n'était pas prête à ouvrir la frontière avec le Victoria. Malgré l'assouplissement des restrictions dans le Victoria, Madame Berejiklian déclare qu'elle hésite à agir à la hâte.
We want to open that border as soon as we can, but what is really important to us is to see what happens once the government eases restrictions down there. That's the real test. I knew the real test for New South Wales wasn't lockdown, because it's easy not to spread the virus when everyone's confined to their home or has limited mobility. But once you ease restrictions and people start moving around again and start working, that's the real test. And I think the residents of New South Wales would expect me and my government to be responsible in how we deal with that.
Environ 5000 Australiens devraient rentrer en Australie sur 8 vols subventionnés depuis l'Inde, l'Angleterre et l'Afrique du Sud au cours des prochaines semaines. Après avoir atterri à Darwin aujourd'hui mardi, les passagers du premier vol de rapatriement depuis l'Inde seront mis en quarantaine pendant 2 semaines à Howard Springs, dans le territoire du Nord. Il s'agit de l'un des 4 vols au départ de New Delhi qui fait partie d'un nouveau programme de rapatriement du gouvernement fédéral. Le parti travailliste au niveau fédéral intensifie ses attaques contre le gouvernement Morrison concernant les retards dans la création d'une commission nationale d'intégrité. L'opposition multiplie les appels pour un chien de garde anti-corruption alors que le Parlement fédéral siège cette semaine. Le parti travailliste a interrogé la coalition sur les liens entre le parti libéral et les contrats financés par les contribuables, le scandale des montres de luxe à Australia Post et l'accord d'acheter des terres dans l'ouest de Sydney à 10 fois le prix normal pour construire un aéroport. S'adressant sur l'ABC, Jim Chalmers, porte-parole des travaillistes, déclare que tout obstacle est inacceptable.
This government is a dumpster fire of ministerial scandal, and we're seeing it right across the board. That's why we need a National Integrity Commission, and it's probably why the government's dragging its feet on it.
Aux États-Unis, le Sénat confirme l'arrivée de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême du pays. Le vote 52 pour, 48 contre. Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, met en garde le président Donald Trump. L'ancien vice-président a déclaré que les mesures de santé devraient être respectées lors de toute célébration potentielle. Retour sur cette arrivée de Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis avec Eric de Salve pour Radio France Internationale.
Amy Coney Barrett va officiellement devenir la troisième juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême. L'issue du vote au Sénat ne fait aucun doute. La majorité républicaine a unanimement promis de voter sa confirmation. Nommée à vie, Amy Coney Barrett, 48 ans, va faire pencher la plus haute juridiction des États-Unis, très à droite et pour longtemps. Cette catholique mère de 7 enfants est opposée au droit à l'avortement, opposée également à l'assurance santé Obamacare. Et ses auditions devant le Sénat ont montré son penchant climato-sceptique. En somme, la candidate idéale aux yeux de la base électorale de Donald Trump. La nomination de 3 magistrats durant le mandat du président porte à 6 le nombre de juges conservateurs contre seulement 3 progressistes et c'est l'un des arguments centraux de Donald Trump auprès de ses fidèles électeurs. Mais certains analystes se demandent si cette stratégie ne va pas finir par se retourner contre lui le jour du vote car Amy Coney Barrett est aussi adulée à droite qu'elle est détestée à gauche et sa nomination pourrait mobiliser l'électorat démocrate contre Donald Trump le 3 novembre prochain.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violer le nouvel accord de cessez-le-feu. La trêve visait à arrêter les combats dans la région séparatiste du Haut-Karabakh qui a fait des centaines de morts. Dans un discours télévisé, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que l'Azerbaïdjan n'était pas disposé à négocier.
I want everyone to understand clearly that Azerbaijan does not want to compromise to resolve this issue. It wants the capitulation of Karabakh. We are ready to make concessions, even concessions that are painful for us. But the Armenian people will never be ready to surrender.
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que l'Arménie était responsable de l'échec de l'accord de cessez-le-feu. Selon lui, l'Arménie a bombardé la région de Tartare en violation de la trêve et insiste pour qu'il y ait une solution pacifique, que l'Arménie doit établir un calendrier pour se retirer du Haut-Karabakh. En Grande-Bretagne, 3 millions d'enfants des familles les plus pauvres bénéficient de repas scolaires gratuits, mais le Parlement a décidé de s'opposer à la distribution de bons alimentaires pendant les vacances. Reportage de Béatrice Leveillé pour RFI.
Le débat qui a suivi ce vote controversé a mis en évidence la pauvreté qui sévit au Royaume-Uni en raison de la pandémie. Mais le Premier ministre Boris Johnson assume le vote des députés conservateurs. Il compte sur les initiatives locales pour subvenir aux besoins des enfants en difficulté.
We have to deal with it. The debate is how do you deal with it?
Nous avons le devoir de gérer ce problème, donc le débat porte sur la manière de le gérer. Et nous sommes très fiers du soutien que nous avons apporté aux familles et aux municipalités depuis le début de la crise. Et nous allons continuer à le faire.
Boris Johnson assure qu'aucun enfant n'aura faim cet hiver et que c'est une priorité pour son gouvernement. En attendant, pour le parti travailliste, 1 400 000 enfants risquent de manquer de nourriture pendant les vacances, car le Premier ministre et le Parlement leur ont refusé leur aide la semaine dernière.
Aux Seychelles, l'élection dimanche de Wavell Ramkhalawan à la présidence avec 54,9% des voix. Le pasteur anglican du parti L'Union démocratique Seychellois a battu dès le premier tour le président sortant Danny Ford. Précision de Jeanne Richard pour RFI.
C'est au son des klaxons et des chants que ses partisans ont célébré la victoire sur l'artère principale de Victoria, la capitale. Wavell Ramkhalawan, 59 ans, devient le cinquième président des Seychelles. C'était la sixième candidature du pasteur anglican à la présidence. Depuis 43 ans, au lendemain de l'indépendance, tous les dirigeants de l'archipel étaient issus de l'ex-parti unique, récemment renommé United Seychelles. Lors de ce scrutin, les électeurs se sont fortement mobilisés. La participation dépasse les 88%. Après l'annonce de sa victoire, Wavell Ramkhalawan a appelé à l'Union nationale.
Dans cette élection, il n'y a ni perdant ni gagnant. C'est notre pays qui apparaît comme le véritable gagnant. Monsieur le Président Ford, vous et moi, nous sommes de la même génération. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble pour notre beau pays.
Parmi les défis qui attendent le nouveau président, relever l'économie seychelloise, frappée par la pandémie de coronavirus, le tourisme, qui représente 30% du PIB, s'est effondré et la roupie seychelloise a perdu près de 50% de sa valeur face à l'euro depuis le mois de mars dernier. Le président sortant, Danny Ford, a lui rapidement reconnu sa défaite et souhaité bonne chance à son successeur. Wavell Ramkhalawan doit prêter serment ce lundi à la présidence.
En Thaïlande, les grandes manifestations pour demander le départ du gouvernement et une réforme de la monarchie se poursuivent. Reportage Carole Izou pour RFI.
Ils se sont exprimés en thaï, en anglais et en allemand pour demander le départ du gouvernement, une nouvelle constitution et surtout une réforme de la monarchie. Des milliers de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Bangkok jusqu'à l'une des artères principales de la ville où se situe l'ambassade allemande qui se trouvait sous haute surveillance policière. Pour ces manifestants, puisque le dialogue avec le Premier ministre a échoué, il faut s'adresser directement au roi, qu'ils accusent de contrôler l'armée et donc de diriger en secret le pays.
Le gouvernement ne répond à aucune de nos demandes. Ils évitent les questions, font des réponses vagues. Nous, on a besoin d'entendre parler de mesures concrètes, mais bien sûr, ils ne peuvent pas les donner, ces réponses. Ce ne sont pas eux les vrais patrons. Tout ce système, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour le dire que nous sommes là aujourd'hui.
À l'ambassade, les manifestants ont délivré une lettre et des documents contenant selon eux des informations susceptibles de prouver que le souverain Ramadi serait les activités illégales en Allemagne. Le Premier ministre allemand a déjà prévenu que le souverain thaïlandais ne saurait mener des actions politiques depuis le territoire allemand.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 24 degrés, Adélaïde 20, Melbourne 17, Hobart 15, Canberra 16, Sydney 20, Brisbane 26, Cairns 33, Darwin 33 également et à Alice Springs maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce 27 octobre, les Melbourniens sont autorisés une visite à domicile par jour avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus. La juge américaine Amy Coney Barrett, confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Aux Seychelles, l'élection présidentielle de dimanche avec le candidat de l'opposition qui gagne, une première depuis 1977.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Je...
journal des sports pour aujourd'hui. On commence avec bien du cyclisme et un tour d'horizon, et bien de deux grands tours qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment même. Le Tour d'Italie s'est terminé dimanche et la Vuelta continue pour deux prochaines semaines. Tour d'horizon de ces résultats avec Cédric De Oliveira pour RFI.
Du cyclisme à présent avec la fin du Giro, le Tour d'Italie finalement remporté par Tao Geoghegan, le Britannique de chez Ineos a profité du dernier contre-la-montre autour de Milan pour prendre le meilleur sur son rival, l'Australien Jay Hindley. Les deux hommes étaient séparés de 86 centièmes, autant dire un souffle avant le départ de cette 21e étape. Mais Geoghegan a donc été le plus rapide, 39 secondes d'avance sur Hindley. L'étape a été remportée par le champion du monde de la discipline, l'Italien Filippo Ganna. Arnaud Démare ne s'est pas mêlé à la lutte. Le Français a surtout validé son maillot cyclamen du classement par points, ce qui vient conclure un Giro idyllique pour le coureur de la Groupama FDJ, vainqueur également de 4 étapes. Finalement, malgré un début d'année délicat avec notamment une fracture du scaphoïde, il vient de boucler la saison la plus belle de sa carrière à 29 ans.
Ça reste un moment vraiment magique. J'ai vécu un Giro exceptionnel et surtout une saison exceptionnelle avec le confinement, avec mon scaphoïde et puis toutes ces victoires qui se sont enchaînées. Donc vraiment extra. On va revenir avec 4 victoires. Le cyclamen devant Peter Sagan, c'est vraiment le plus coriace que je pouvais avoir pour ce maillot par points. Et donc, c'est chose faite.
Voilà, Arnaud Démare qui repart de Milan et du Tour d'Italie avec le maillot cyclamen comme Nasser Bouhanni en 2014 et comme Laurent Jalabert en 1999. Et puis, pour être complet sur le cyclisme, sachez que le peloton du Tour d'Espagne a parcouru 6 étapes pour l'instant. 6e étape remportée dans les Pyrénées par le Basque Jon Izagirre. Le nouveau maillot rouge, c'est le Colombien Richard Carapaz qui a notamment profité d'une défaillance du Slovène Primož Roglič pour prendre la tête.
Cédric De Oliveira pour RFI. Allez, on passe au football et le point sur la Ligue en France, la Ligue 1, et notamment ce match de l'Olympique Lyonnais contre Monaco avec Marion Casanov.
La large victoire de l'Olympique Lyonnais qui s'impose à domicile face aux Aiglons de Monaco. Score final 4-1. Lyon remonte à la 6e place et le gardien lyonnais Anthony Lopez, décisif en tout début de match, ne veut pas s'arrêter là.
De toute façon, c'est ce qu'on attend de moi tout simplement. Voilà, j'essaye d'être décisif. Ça m'a réussi ce soir parce que derrière on finit la première période en menant 4-0. Mais voilà, j'essaie de faire mon travail. L'équipe a fait un énorme travail aussi et je pense que voilà, la victoire est nettement méritée. Il ne faut pas s'arrêter parce que la 6e place, c'est pas du tout notre objectif. Voilà, on doit aller chercher le podium, la Ligue des Champions, parce que ça manque clairement. Et voilà, notre objectif, on l'a jamais caché, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions et directement si possible.
Et le point sur les autres matchs de Ligue 1 avec Tom Rossi et Phil Le Caplin de RFI Sport.
Lille qui n'est plus leader de la Ligue 1.
Les Lillois cèdent leur place au Paris Saint-Germain après leur match nul 1 partout sur la pelouse de Nice lors de la 8e journée. Ouverture du score de Dolberg côté niçois, égalisation de Yilmaz. Le LOSC à égalité de points avec le PSG mais devancé à la différence de but.
Plutôt, bien les mal classés ont fait de la résistance.
Et même bien plus encore, Philippe, deux gifles infligées à l'extérieur. Le 19e Reims a corrigé Montpellier, victoire 4-0 avec un triplé du Sénégalais Boulaïdia. Le 18e Strasbourg était à Brest, succès 3-0 avec la deuxième réalisation en deux matchs d'un autre Sénégalais, Habib Diallo. Et puis deux autres victoires nettes à domicile, 2-0 pour Bordeaux face à Nîmes et Metz contre Saint-Etienne.
Voilà donc pour le football en Formule 1 maintenant. Le Lewis Hamilton qui a battu le record de Michael Schumacher ce week-end, 92 victoires dans sa carrière. Marie-Amélie Mott.
Hamilton entre un peu plus dans l'histoire avec cette 92e victoire. Le Britannique devance donc l'icône de la Formule 1, Michael Schumacher, pilote historique de Ferrari entre 1996 et 2006, septuple champion du monde. Aujourd'hui à 35 ans, c'est Lewis Hamilton qui règne sans partage sur la F1. 21 victoires chez McLaren avec qui il a remporté son premier titre de champion du monde en 2008, puis 71 chez Mercedes et 5 sacres mondiaux avec l'écurie allemande. Cette victoire aujourd'hui au Portugal le rapproche un peu plus d'une 7e couronne mondiale. Lewis Hamilton égalerait ainsi le record de titre de Michael Schumacher. Il est plus que jamais en tête du classement des pilotes. 76 points d'avance sur Valtteri Bottas, son coéquipier cantonné à une place de dauphin. Deuxième aujourd'hui sur le circuit inédit de Portimao. À 5 courses de la fin du championnat du monde, Lewis Hamilton semble très bien parti pour écrire un nouveau chapitre de sa légende.
Et on écoute d'ailleurs la réaction de Lewis Hamilton.
Je n'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui quand j'ai choisi de venir chez Mercedes avec ces gens géniaux. Mais j'y suis parvenu. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie d'en profiter chaque jour de mon existence. Nous tirons tous dans le même sens et c'est le secret de notre réussite. Mon père est là aujourd'hui, ma belle-mère aussi et mon chien Roscoe. C'est un jour béni.
Lewis Hamilton. Allez, pour conclure ce journal, la belle victoire des Français face au Pays de Galles. Pas souvent, et ça faisait un petit moment que les Français n'avaient pas gagné contre les Gallois. Les explications d'Éric Chorin.
J'espère qu'on a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire à ces millions de supporters qui peuvent pas jouer au rugby, qui peuvent pas venir au stade.
Que Fabien Galthié se rassure si les Bleus ont fait trembler leurs supporters, même de loin, avec un peu de retard à l'allumage et un essai de l'arrière gallois Lee Halfpenny dès la première minute. Ils ont su réagir, le capitaine Charles Olivon.
C'est vrai qu'on n'est pas super bien rentré dans le match, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est après le premier essai. On s'est retrouvé sous les poteaux, il n'y a pas un mec qui a paniqué. On est resté dans le cadre et voilà, encore une fois, c'est le collectif qui en est sorti grandi. Et je pense que voilà, on a repris les choses par le bon bout. On ne s'est pas affolé, on est resté calme, serein. Et voilà, au final, on arrive à remonter, à passer notre jeu. Et sincèrement, je suis très fier de toute cette équipe parce qu'on a fait preuve de caractère.
Du caractère et du plaisir pour leur retour sur le terrain de jeu en bleu après 7 bons mois d'absence avec 5 beaux essais. Plaisir partagé par l'ailier Vincent Rathès, même s'il n'a pas marqué.
On marque 5 essais, donc on se fait plaisir. Le but, c'est depuis bientôt un an et demi, c'est de produire du jeu sans trop tomber dans l'excès, mais d'essayer de jouer dans les bonnes zones du terrain. Et je pense qu'on a les joueurs pour le faire. Donc moi, ça nous réussit bien ce soir. Je crois que lors du tournoi aussi, ça nous avait pas mal réussi. Après, voilà, c'est vrai qu'on se base aussi sur une grosse défense qui nous a pas mal aidé ce soir. Donc c'était bien.
C'était bien, c'était chouette avec Antoine Dupont à la baguette, impliqué dans 4 essais, dont 2 qu'il a lui-même aplati. Mais Fabien Galthié, quand on souligne que Dupont a été énorme, n'oublie pas, en bon entraîneur, de saluer aussi son compère de la charnière, Romain Tamac, auteur d'un 6 sur 6 au pied.
Tu as employé le mot énorme. J'avais de dire qu'il a été à la hauteur de l'équipe, il a su exploiter nos temps forts, il a su être très bon, il a su s'adapter assez vite à l'activité à la fois offensive et défensive des Gallois. Et c'est vrai que quand on a des joueurs de cette qualité au centre du terrain, je parle de la charnière parce que la charnière a été bonne en fait dans son ensemble, dans la conduite du jeu, ça porte l'équipe.
Une équipe portée également par un Virimi Vakatawa tranchant comme le silex et magique à la passe et un paquet d'avant qui a pesé de tout son poids en mêlée dans le jeu, en témoigne le premier essai conclu par le pilier Cyril Baye. De quoi rassurer des Français qui n'ont eu que 5 jours pour préparer ce match, mais il y a encore des choses à corriger, notamment cette indiscipline qui leur a valu d'être pénalisée 16 fois, soit 4 fois plus que leur adversaire, dans la contestation du ballon notamment, surtout s'ils veulent battre l'Irlande dans une semaine au Stade de France pour refermer en beauté un tournoi qu'ils avaient si bien commencé l'hiver dernier.
Éric Chorin, voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Et comme chaque mardi, tour d'horizon de l'actualité en France avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une tout d'abord, eh bien, les tensions entre la France et la Turquie.
Oui, des tensions très très fortes et la France qui a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur en poste en Turquie. C'est la formule consacré, mais quand vous rappelez de la sorte votre ambassadeur, hein, ce n'est pas tant pour sanctionner l'ambassadeur français en question, mais pour montrer au pays où il est en poste, en l'occurrence là, la Turquie, son profond désaccord. Hein, c'est une mesure relativement rare de rappeler ainsi pour consultation son ambassadeur. Tension très forte diplomatiquement entre Paris et Ankara depuis plusieurs semaines. Alors, il y a 15 jours, déjà après le discours du président français Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste, son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, s'en était pris vertement au président français. Il avait jugé que les déclarations d'Emmanuel Macron étaient une provocation envers les musulmans. Emmanuel Macron ayant insisté dans ce discours sur la nécessité de structurer l'islam en France. Eh bien, depuis, il y a eu l'attentat, le meurtre sauvage en pleine rue, la décapitation perpétrée par un russe d'origine tchétchène à Conflans-Sainte-Honorine d'un professeur d'histoire-géographie massacré donc à quelques centaines de mètres du collège pour avoir mené 15 jours plus tôt dans sa classe un cours sur la liberté d'expression où il avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Ce meurtre a suscité un émoi considérable en France. Il y a eu des rassemblements, des manifestations, une onde de choc véritable. L'exécutif, à commencer par Emmanuel Macron, a promis que la peur allait changer de camp. Le gouvernement, qui est décidé à se donner les moyens d'éradiquer l'islamisme radical. Et là encore, eh bien, le président turc Recep Tayyip Erdogan a commenté les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Les choses, il les a commentées à sa façon. Le président turc, avec ses propos, il a invité Emmanuel Macron, je cite, à aller faire des examens de santé mentale. Eh bien, c'est suite à ces propos du président turc que la France a décidé de rappeler son ambassadeur à Ankara. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a fustigé la volonté d'attiser la haine du président de la Turquie, un comportement inadmissible, a-t-il dit, a fortiori de la part d'un pays allié. Jean-Yves Le Drian a rappelé que la Turquie n'avait pas envoyé de message de condoléances suite à la décapitation de Samuel Paty. Il a dénoncé une propagande haineuse et calomnieuse contre la France, mais aussi, toujours les propos de Jean-Yves Le Drian, des insultes directes contre le président exprimé au plus haut niveau de l'État turc. Ankara, eh bien, les Turcs, eux, n'ont pas l'air intimidés par ce rappel de l'ambassadeur français. Ce dimanche, le directeur de la communication de la présidence turque a rappelé combien, à ses yeux, la publication de caricatures du prophète Mahomet, ces caricatures que le journal Charlie Hebdo a republié en septembre, combien ces caricatures étaient offensantes aux yeux de la Turquie, tout comme, je cite, les perquisitions en France de mosquées.
En tout cas, 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty, l'émotion est toujours très très forte en France. Le gouvernement a fait toute une série d'annonces pour répondre à l'islamisme radical.
Et la possibilité notamment de fermer certaines mosquées. L'État cherche à fermer par exemple la mosquée de Pantin dans le nord de Paris. Le compte Facebook de cette mosquée de Pantin avait relayé dans les jours qui ont précédé l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty une vidéo qui s'en prenait au professeur où l'on voyait un parent d'élève avoir des propos très durs envers lui après ce cours sur la liberté d'expression. Cette mosquée de Pantin, elle est dans le collimateur des autorités françaises depuis des mois, voire des années. Et c'est là toute la difficulté pour les autorités. Comment concilier la liberté de culte, ce qui se passe, ce qui se dit dans les mosquées et la lutte contre l'islamisme radical, sans stigmatiser tous les musulmans, bien entendu. Les services de renseignement français considèrent que les thèses de l'islam radical, qui poussent certains à passer à l'acte, eh bien, elles sont colportées dans une centaine de mosquées en France. Alors faut-il fermer toutes ces mosquées ? Certains, dans la classe politique, estiment bien évidemment qu'il faut le faire. Faut-il expulser les imams d'origine étrangère qui diffusent ces thèses dans les mosquées françaises ? Le gouvernement semble bien décidé, en tout cas, à être beaucoup plus ferme de ce côté-là, même si toutes ces mesures doivent être encadrées, bien entendu, par la loi. Dans le cas présent de l'assassinat de Samuel Paty, le tueur Abdullah Kantsorov, il a été ensuite tué par les forces de l'ordre, quelques minutes après avoir été repéré au pied du cadavre. Mais l'enquête tente de comprendre dans quelle mesure et pourquoi ce russe d'origine tchétchène, qui bénéficiait du statut de réfugié en France, eh bien, s'est radicalisé, comme le confirme sa famille ces derniers mois. Était-il en lien avec ceux qui ont publié des vidéos avant l'assassinat du professeur ? On a donné son adresse, son nom à ce professeur sur les réseaux sociaux. En tout cas, une certaine frange de l'islamisme radical s'est emparée de cette affaire et du cours de Samuel Paty début octobre sur la liberté d'expression dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine. Les caricatures du prophète Mahomet, certains s'en sont emparés. Et à l'arrivée, eh bien, Abdullah Kanzorov, qu'il soit en lien ou pas avec ces personnes-là, eh bien, il a acheté un couteau de 30 cm et il est allé décapiter le professeur après avoir soudoyé des élèves devant l'établissement pour identifier sa victime. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a annoncé que plusieurs associations et groupes liés à l'islam radical allaient être dissous à l'échelle de toute la France. Des perquisitions ont été lancées ces derniers jours depuis l'assassinat du professeur. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, alors qu'actuellement ce sont les vacances scolaires pour 15 jours, les vacances de Toussaint, Jean-Michel Blanquer a redit à tous les enseignants de France sa solidarité, un message de cohésion, d'unité. Il les invite, tous les enseignants, à signaler systématiquement tous les problèmes liés à la laïcité et à la violence, quels qu'ils soient. Il reconnaît à demi-mot qu'au fil du temps, on avait fini par laisser passer des comportements inacceptables dans tel ou tel établissement, dans l'idée de ne pas faire de vagues, de ne pas stigmatiser une communauté, les musulmans, même quand un élève ou un parent dépassait les bornes, eh bien le ministre Jean-Michel Blanquer précise là qu'il faut être beaucoup plus ferme. Et à propos des caricatures du prophète Mahomet, il explique que cela n'est pas une obsession de la part de la France ou de l'éducation nationale que de les montrer, mais il n'est pas question, dit-il, de renoncer à expliquer aux élèves ce qu'est la liberté d'expression et que l'on doit laisser une liberté éditoriale aux professeurs dans les classes. On ne doit pas censurer, dit Jean-Michel Blanquer, ce serait ajouter, dit-il, et mettre le doigt dans l'engrenage fatal de l'intimidation. Il invite encore à renforcer les valeurs de la République, de la laïcité et la protection des enseignants, également la protection de tous ceux qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu pour nous en France cette semaine.
À bientôt, bonne journée.
À la semaine prochaine. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous avons le plaisir d'avoir Eric Chapus au micro. Bonjour Eric.
Bonjour Jean-Noël.
Eric, présentez-vous à nos auditeurs, racontez-nous votre parcours musical.
Eh bien, mon parcours musical a commencé en 1996, quand j'ai été unearthed par Triple J.
Ouais.
Et puis tout de suite, j'ai signé un contrat avec Sony Music qui m'a permis de créer des albums pendant plusieurs années et de tourner en Australie dans plusieurs endroits dans le monde aussi. Et j'étais localisé au-dessus de Cairns dans le Queensland, dans un petit village qui s'appelait Kuranda, et j'ai été obligé de bouger ma famille, parce que j'avais une petite fille, de bouger ma famille à Sydney juste pour des raisons pour composer, etc., pour des films et tout. Et donc, depuis, j'habite à Sydney.
Eric, parlez-nous de ce dernier single, Blow Me a Kiss, c'est en duo avec Jessica Nittis.
Tout a démarré il y a plusieurs années. J'ai commencé à faire des lectures dans des universités à Sydney, des lectures de musique. Et puis Jessica Nittis était un de mes students et elle a une super voix. Et donc mon patron m'a recommandé de commencer à faire un doctorat de musique, de façon à pouvoir continuer à enseigner dans des universités. Donc, je me suis engagé à faire un doctorat avec l'université de Newcastle et mon superviseur m'a, en discutant avec mon superviseur, il m'a recommandé d'explorer ce qui avait donc commencé ma carrière en faisant une appropriation d'un morceau de musique classique, donc Eric Satie, un composeur français qui est mort en 1925, je crois. Et donc, j'ai demandé à Jessica si elle était intéressée de chanter sur un de mes morceaux. Et Blow Me a Kiss, c'est une appropriation de Chopin, un morceau de Chopin que j'ai approprié et écrit des paroles dessus. Et donc, elle est venue, elle a chanté dans mon studio. Je m'excuse, hein, mon français est vraiment rouillé.
Non, c'est parfait, c'est bien.
C'est beaucoup plus facile en anglais.
Et Eric, parlez un petit peu de la scène musicale en ce temps particulier de Covid-19. Il y a eu une pause chez vous en Nouvelle-Galles du Sud depuis mars.
Ah oui, absolument, oui. C'est-à-dire que tous les venues se sont fermées et donc ça n'a plus été possible pour les gens qui faisaient des tournées de gagner de l'argent. Donc c'était un dismont. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'enseigne dans des universités, donc ça m'a permis de continuer. Et en fait, ça m'a permis d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, en fait, d'être confiné, etc. Mais la situation s'améliore petit à petit, mais c'est pas encore ça. Hein.
Et donc, vous avez pris du temps et donc, peut-être, vous avez eu l'occasion de penser un petit peu de vos projets pour 2021, des projets de tournée peut-être en 2021?
Projet de tournée, pas vraiment. Peut-être quand une fois que mon doctorat est délivré, donc le doctorat qui a 14 ou 15 morceaux de musique classique qui ont été appropriés, on pensait peut-être faire un show à la Opera House in Sydney avec un orchestre. Mais sinon, plus ou moins, penser à faire des lectures dans des universités et puis faire un show aussi ensemble, quoi. C'est-à-dire moitié doctorat, moitié thèse et moitié musique, en fait.
Et sur un plan peut-être un petit peu plus personnel, qu'est-ce qui vous a emmené ici en Australie, Eric?
C'est une fille.
L'amour.
C'est l'amour, oui. C'était l'amour. Je suis plus avec elle, mais c'était l'amour au départ. Et on s'était rencontrés en Inde. Et puis, en fait, il fallait choisir entre la France et l'Australie. Et on a décidé d'aller en Australie parce qu'elle était australienne. Et puis, en arrivant ici, moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, on est resté un bon moment ensemble, en fait.
Et c'est ce que vous faisiez en France,
la non, musique pas vous... du tout, non, pas du tout, hein. Non. En France, en jeune, à partir de 18 ans à peu près, j'avais une école de windsurf.
De planche à voile.
De planche à voile, voilà. Donc j'avais une école de planche à voile qui marchait très très bien l'été en France, mm-hmm. et qui me permettait de voyager tout l'hiver avec l'argent que j'avais mis de côté. Et c'est en fait pendant un voyage que j'ai rencontré ma future femme et qu'on a décidé de venir en Australie, voilà.
Et c'est un passe-temps que vous poursuivez toujours?
Non, non, plus du tout. Je me suis fait mal aux épaules il y a plusieurs années. Donc, j'ai tout converti dans la musique.
Absolument. Donc, ouais. On va écouter peut-être Blow Me a Kiss pour terminer la conversation. Merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Et meilleurs voeux et pour les projets à venir.
Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que j'ai parlé avec vous. Et puis, j'espère que Melbourne va bientôt être libéré du confinement qu'il y a en ce moment.
Merci à vous, Eric, et à une prochaine fois. Merci.
Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je vous laisse en compagnie de Francis Cabrel qui nous interprète chanson pour Jacques. Et il parle de Jacques Dutronc.
Vous savez le nombre de navets qu'on voit sur les chaînes ordinaires. Leur grande utilité, c'est de nous éviter tout ce qui est somnifère. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.